Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Vous avez un chalet, un VR ou une résidence en région? Abonnez-vous à un service Internet haute vitesse de ExploreNet. Notre nouveau réseau Internet LTE offre maintenant des forfaits de téléchargement illimités. Besoin d'un service télé? Nous offrons la télévision chat direct par satellite. Et vous pouvez aussi ajouter la téléphonie à petit prix. Créez votre trio Internet, télé et téléphonie dès maintenant. Contactez votre détaillant et installateur local au 1-866-916-2226. NJ-Albert.com.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564. Point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Qui dit champignon, naturellement, dit morille. Hein? C'est le temps de la morille, c'est un champignon. Un champignon un peu, je vous dirais, iconique dans la forêt, dans nos forêts québécoises. Et pour en discuter avec moi, bien naturellement, vous le savez, hein, on va toujours voir notre auteur, notre conférencier, notre éditeur préféré, M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière. Là, j'ai dit la fameuse morille qui était notre champignon iconique du Québec, parce que finalement, c'est un des champignons, si je ne m'abuse, pour nous, là, ici, même à travers le Canada, à travers du moins l'Amérique du Nord, un champignon très, très, très prisé des cueilleurs, des amateurs.
Alors, je vous dirais que ce que vous venez de dire là est tout à fait vrai. Puis vous avez parlé d'Amérique du Nord, mais je voulais vous dire qu'en Europe, il y a des cueilleurs de morilles qui sont encore très, très actifs. Puis la raison qui est derrière cette cueillette intensive-là et la recherche de morilles, c'est pas juste une question de trophée. C'est parce qu'il y a un goût particulier et très, très recherché aux morilles. Quand on cuisine, c'est tout simplement ça.
Oui, puis dans la morille, naturellement, on connaît beaucoup la morille blonde. On connaît la morille aussi, qu'on pourrait dire, la morille de feu, la morille noire. On y perd un peu notre latin dans tout ça, parce qu'on sait qu'après un grand feu de forêt, ben naturellement, on peut aller cueillir ces... C'est comme un peu l'or noir des feux de forêt. Là. Suite à un feu de forêt, il y a beaucoup de cueilleurs, c'est pratiquement un Klondike, hein, qui vont... Mais oui. Qu'est-ce qui fait qu'une morille pousse après un grand feu?
Il faut plusieurs conditions pour que la morille qu'on dit morille de feu, parce que maintenant les mycologues ont statué que la morille de feu était comme une variété ou une sous-espèce de la morille noire. Ben, il faut absolument, pour qu'un champignon sorte d'abord, il faut qu'il y ait du mycélium dans le sol. Ça, c'est clair et net, parce que c'est comme une fleur qui sort d'un arbre ou d'une plante en général. Ben, il faut que cette structure-là se retrouve là. Ça veut dire que le mycélium de ce qu'on appelle la morille de feu, bien, ce mycélium-là est présent dans le sol depuis le dernier grand feu. Puis très souvent, ces périodes-là, c'est autour d'une centaine d'années. Donc, on a dans le sol une certaine richesse qui est là latente. Quand le feu passe, ben, il va évidemment mettre la surface du sol à nu. Elle est noire et la chaleur devient plus intense. Puis il y a des minéraux aussi qui sont générés par le passage du feu. Alors voilà, on a des conditions qui sont réunies pour qu'il y ait cette période de floraison intense, donc la sortie des morilles.
Oui, donc il n'y a, pas juste la forêt qui régénère, mais on trouve aussi la fameuse morille qui revient. Mais si on revenait, M. Larivière, à notre fameuse morille blonde, la morille commune, là, je ne sais pas si c'est la morille blonde, mais la morille qu'on retrouve le plus, nous, ici, là, au Québec, en quel temps c'est bon de la recueillir? Deux, reconnaître un territoire propice à la morille, ça serait quoi?
Écoutez, la morille qu'on retrouve en plus grande quantité au Québec, c'est la fameuse morille noire ou la morille conique. Et dépendamment où on se trouve au Québec, dans le sud du Québec, ça va être à partir du début mai. Dans le nord du Québec, en Abitibi, par exemple, c'est vers la fin mai, début juin. Et on va retrouver la fameuse morille noire dans des sous-bois des sous-bois de forêt jeune. On va voir du tremble, par exemple, avec des petits merisiers, puis avec avec du noisetier. Puis il va y avoir au sol, là, vraiment beaucoup de lumière et il va y avoir un bon tapis de feuilles de tremble, de feuilles de feuillus. Et je vous dirais que la morille noire, ça pousse à peu près n'importe où. À titre d'exemple, j'arrive à Chibougamau il y a une couple d'années et derrière le kiosque d'information touristique, alors je donne un cue à tous les auditeurs, ben, les plates-bandes qui sont là, vous regardez un peu, puis vous avez des morilles qui sortent. Les morilles noires, là, ça lème le terrain remanié.
Ah, OK. OK. Donc, il faut que ça ait été... Donc, est-ce qu'on les retrouverait sur les bords de chemin, là, de bûcher?
On peut en retrouver dans ces endroits-là aussi. Je vous dirais qu'on en cueille aussi dans des zones, par exemple, dans des gravières. Vous savez, des gravières, il y a des bordures qui n'ont pas été ou très peu, qui vont avoir été touchées. Des fois, il y a des petits troncs d'arbres qui ont été bousculés. Ben, écoutez, c'est des très bons endroits pour la cueillette de morilles. D'ailleurs, les chasseurs de morilles vont partir en auto, puis vont débarquer dans ce qu'on appelle un pit de gravelle ou un pit de sable, puis vont marcher sur les sommets qui bordent, la gravière, et ils vont faire des fois des très bonnes récoltes dans ces zones-là.
C'est intéressant. Et puis, pour en revenir, là, naturellement, on cueille la morille, et puis là, si on veut la conserver, on voit beaucoup de gens qui la déshydratent. Est-ce que c'est... Naturellement, on dit toujours de la manger fraîche, mais la déshydratation de la morille, ça se prête assez bien, mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses ou la congélation va primer sur la déshydratation?
Moi, je vous dirais qu'en ce qui concerne la morille, c'est toujours la déshydratation. Puis moi, je recommande fortement de couper les morilles qu'on a cueillies. D'abord, il faut les nettoyer, parce que très souvent, les morilles qu'on cueille, à cause de la surface de l'espèce de chapeau là, qui est plein de trous, on appelle ça des alvéoles, ben, il va y avoir du sable dans ces parties-là. Alors, on nettoie ça. Moi, je mets ça rapidement, très peu de temps, dans l'eau très froide, on brasse. Le sable, la matière organique se dépose. Puis encore une fois, je recommande d'utiliser une essoreuse à salade pour enlever le surplus d'eau. Puis on coupe en deux, parce que des fois, il y a des petits amis qui se sont logés à l'intérieur, parce que c'est caché. Puis on les met au déshydrateur, coupés en deux. Puis elles se conservent, ces fameuses morilles-là, pendant un an, deux ans, facile.
Oui. Et puis nos petits amis qui pourraient s'y loger pourrait être de la protéine. Non. Et puis, écoutez, ouais, M. Larivière, le temps file rapidement, mais tout ça pour dire qu'on est en train de mettre la table à une belle entrevue que vous allez vous prêter avec notre ami M. Vincent Delisle de Spirit, qui, on sait, fait beaucoup, beaucoup de direct pour nous, Simplement Plein Air. Et puis, vous allez être sur la page Facebook de Simplement Plein Air et, naturellement, dans le monde, finalement, de Facebook, dans le monde des internets, comme on dirait. Donc, on va vous retrouver là jeudi soir à 19h30. Ça, c'est à ne pas manquer. M. Larivière va être là et il va parler de Morille avec Vincent. Et naturellement, ben, on sait que M. Larivière est auteur et aussi distributeur et éditeur, conférencier. Et puis, on sait là, que tranquillement, ça se débloque, des petits groupes peut-être à l'extérieur et tout ça. Donc, si vous voulez plus d'informations, monsieur, si les gens veulent plus d'informations, on ferait quoi, monsieur Larivière?
Écoutez, pour des informations, ben, vous allez me poser les questions, soit en utilisant mon adresse de site, naturat.ca, naturat.ca. Je suis sur Facebook. Et on est toujours très heureux de répondre à des questions parce que des questions nous amènent à des connaissances nouvelles très souvent.
Absolument. Donc, à ne pas manquer, je le dis, jeudi soir, jeudi là, pour ceux qui nous écoutent en balado, c'est demain. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais c'est jeudi qui s'en vient. Donc, à ne pas manquer, une belle entrevue avec Vincent Delisle et vous allez voir M. Larivière en direct. Donc, là-dessus, moi, je vous dis une bonne semaine, M. Larivière, et on se rejase la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Simplement Plein Air, c'est de la balado. Simplement Plein Air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement Plein Air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement Plein Air et abonnez-vous. Après tout, Simplement Plein Air, c'est pour vous.
Aujourd'hui, on va s'entretenir avec un passionné de rando loisirs qui collectionne aussi des montagnes, mais pas les montagnes connues habituelles, des coups de cœur bien personnels. Il s'agit de Gilles Girard. Bienvenue! Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Notre invité aujourd'hui, Gilles Girard, donc, il va nous parler de sa passion. Vraiment, vraiment un beau moment que j'ai passé avec lui. Comme avec tous mes invités, je vous adore, c'est fantastique. Des gens qui ne sont pas des vedettes, des athlètes, des Olympiens, des gens que l'on dit malheureusement des gens réguliers, ordinaires et tout, mais qui sont des gens exceptionnels, bien au contraire. Donc, on parle avec lui aujourd'hui, il va nous passionner là-dessus. Bienvenue en direct, peut-être, à la radio à présent. Sinon, vous pouvez écouter en rediffusion via le podcast ou encore la version YouTube sur la chaîne québeccompostelle.com. On échange sur la randonnée pédestre de longue durée, autant la rando loisir, la randonnée pédestre de longue durée avec la rando autonomie, la rando communautaire, la rando tourisme, etc. Cette semaine, je parlais sur les médias sociaux, si vous m'avez suivi un peu, je parlais des grandes qualités des randonneurs, marcheurs. Quelles sont ces grandes qualités? Je posais la question, entre autres, ce qui revenait, entre autres, c'était la persévérance. C'est sûr, quand on part pendant 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois, hein, avoir une certaine persévérance. Également, parler de tolérance, parce qu'on rencontre toutes sortes de situations, toutes sortes de gens de partout à travers le monde, c'est différent, donc pas être tolérant. Et il faut s'adapter, l'autre mot-clé, l'autre grande qualité également. Et puis, il y a beaucoup d'empathie, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les marcheurs, les randonneurs, donc de belles qualités. Je vous invite à voir ça, donc on a jasé cette semaine sur les médias sociaux. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez me rejoindre via les médias sociaux. Tout ça est disponible sur québeccompostelle.com. Il y a même un gros bouton vert avec une flèche jaune pour nous rejoindre directement sur le site, mais également sur Messenger, courriel, téléphone, etc. Donc, on parle avec notre invité aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on le laisse se présenter à nous.
J'ai 67 ans maintenant. J'ai travaillé 35 ans dans le secteur hospitalier à Saint-Luc, principalement en radiologie, principalement comme brancardier. Donc, mon métier était d'aller chercher le patient à sa chambre et de le transporter en chaise roulante, en civière, avec le lit, aux soins intensifs, on transporte le lit au complet, de l'amener passer sa radio, puis après ça, on faisait le trajet inverse. Ça a été l'emploi que j'ai fait le plus longtemps. Ben, en 1987, écoute, il y a des dates dont je ne suis même pas sûr. Mais autour de 1987, par hasard, moi et un de mes amis, on s'est retrouvés au. C'est à la fin de l'automne, on s'est retrouvés au pied du mont Pitchoff, dans les Adirondacks. J'avais trouvé ça assez difficile, j'étais pas en super forme, j'étais fumeur. Mais le printemps d'après, j'ai eu le goût de continuer puis de recommencer. Puis c'est vraiment à ce moment-là, lorsque j'ai repris, que j'ai pogné la piqueur là, qui est venue me chercher là, comme une passion.
Puis à travers tout ça, il a développé le côté guide professionnel, gardait toujours son emploi à l'hôpital, et puis ça l'a amené à vivre des moments fantastiques à travers le monde, entre autres. Des aventures dans la gorge, dans le creux, dans le fond du Grand Canyon.
D'abord, c'est l'immensité. Ce qui te frappe en premier, c'est ça. Il n'y a pas une caméra, il n'y a pas un livre. Tu vas voir le film sur IMAX qui te donne... J'en parle, j'ai les frissons qui me passent sur... C'est cette immensité absolument incroyable. Puis là, nous autres, quand on est en haut, on pense qu'on aperçoit le petit ruisseau qu'on va traverser. Puis là, quand je dis à mes clients, on s'en va camper de l'autre côté du ruisseau, ils me regardent en disant, mais t'es un malade mental. Plus tu descends, en fait, partir d'en haut du Grand Canyon jusqu'en bas, c'est comme si tu marchais de l'Abitibi au Mexique en 7 heures. Tu passes par différentes végétations.
Génial.
Tu passes par différentes roches. Un fait qui va intéresser tout le monde, dans le fond du canyon, il n'y a même pas de fossiles. Parce que ces roches-là étaient là avant que la vie apparaisse sur Terre. Les fossiles sont plus hauts.
Revenons au Québec maintenant. Un coup de cœur, vous allez être surpris, c'est pas une des montagnes les plus connues, populaires. Des fois, c'est comme ça qu'on découvre des petits trésors chez nous.
Une montagne qu'on manque. Écoute, je ne pêche pas tout à fait. Je suis certain du nom de famille, mais pas du prénom. Mais dans le parc de la Gaspésie, on parle tout le temps du Mont Albert et tout ça, qui est très beau, là, je l'ai fait. Mais il y a une petite montagne qui s'appelle le Mont Eugène Fortin, que j'ai fait avec mon ami à l'époque. Et on a tous les deux trouvé un petit coup de cœur. C'est une belle montagne, une belle vue, mais elle n'est pas faite souvent parce qu'elle ne représente pas de défi. Fait que le monde dit, moi, il n'y a pas de défi, je ne la fais pas.
Ouais, ça, on manque le bateau souvent. On veut du défi, non. Contemplation, profitez-en déjà de marcher pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, plusieurs kilomètres par jour. C'est un beau défi. C'est pas parce que vous n'avez pas un dénivelé de 500 mètres, 1000 mètres, etc., que vous savez pas, vous n'allez pas avoir une satisfaction à la fin de votre journée. Au contraire, vous pouvez marcher sur le plat puis vivre ce genre de truc-là. Mais lui, c'était plus un randonneur, loisir de montagne, puis c'est correct. Et qu'est-ce que ça lui a apporté, ça?
On n'est pas tous pareils, ça c'est sûr, mais moi, ça a vraiment été la partie la plus importante de ma vie. Ça a duré 23 ans quand même. Et la partie la plus plaisante de ma vie. J'adorais ça. Je me suis débrouillé pour pouvoir en faire malgré des moyens financiers assez limités. Et là, ça m'a ouvert aux autres, à partager mon expérience avec d'autres. Ça m'a amené complètement ailleurs comme je te disais, j'ai fini mon dernier voyage en 2008 à la Terre de Feu, en Argentine. Je m'en souviens encore, quand l'avion a viré puis j'ai vu le village, j'ai dit « ça se peut pas ». Ça se peut pas qu'un gars qui fait 22 000 piastres par année soit rendu ici. C'était comme... Là, j'étais tellement content de cette vie-là que j'ai eue. C'est sûr que ça a demandé beaucoup de travail. Là, ceux qui disent que je suis chanceux, on passera à une autre affaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail à travers ça. Mais ça m'a apporté une richesse d'amitié, des amitiés qui sont plus solides que les amitiés ordinaires parce qu'on a vécu des épreuves. Même si des fois, on ne se voit pas pendant 5 ans quand on se revoit. Tu te souviens-tu quand?
Quel beau et bon témoignage. C'est ça, la randonnée. Hein? Peu importe quel genre de randonnée que vous faites, c'est autre chose. C'est pas juste le défi physique, la nature, l'extérieur. C'est le plaisir, c'est la chaleur humaine, le temps qu'on passe pour soi, de se démêler, de réfléchir, de mettre les pendules à l'heure. Les échanges qu'on a avec les autres également, c'est très, très, très agréable, pour ne pas dire très puissant.
la randonnée pédestre de longue durée. Écoutez, il me reste très peu de temps. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Ça vous tente de vivre cette passion-là. On a tout ce qu'il faut. Des formations en ligne, des formations en personne. Devenez membre. Vous pouvez également venir faire des randos d'une semaine. Et puis là, là présentement, là, bon, c'est sûr, si vous écoutez ça en rediffusion éventuellement, prenez note. Mais si vous allez sur le site internet, il y a un onglet qui s'appelle « Corporatif » pour votre entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes employé, parlez à votre boss. Il y a même des formations présentement 100% subventionnées de team building avec la randonnée. C'est génial. C'est pas 100%, il y a d'autres programmes à 80%. Et tout ça rentre dans le cadre également du 1% que chaque entreprise doit investir dans la formation, dans le team building. Alors, allez voir, on a un programme présentement, à l'heure qu'on se parle, là, 100% subventionné. Comment dire non à ça? Oui, oui, on va aller chez vous, passer quelques jours, et des fois, c'est même un programme qui dure quelques mois avec des activités. C'est bon pour l'esprit d'équipe, le team building. Donc, regardez dans le volet corporatif. Puis en plus, je termine en vous mentionnant, c'est génial, on recommence également cette période-ci à faire nos randonnées d'une journée ou encore d'une semaine. Il y a plein de trucs. Allez sur québeccompostelle.com. Si vous ne trouvez pas ce qu'il y a là, ben, écrivez-nous, appelez-nous. Les informations sont là, puis on va vous aider. On a tout ce qu'il faut pour faire de la belle randonnée. Donc, toutes les informations sont là. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche!
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air ou à la balado, si vous nous écoutez en balado, au boulot, au dodo, à la radio, peu importe. L'important, c'est que vous nous écoutiez. Et à ce temps-ci de l'émission, bien naturellement, moi, je vais rencontrer mon bon ami, monsieur le maire de Princetown, monsieur le Bushman, Marc Prince. Salut, Marc.
Salut, Guy. Ça va bien?
Oui, monsieur, tout un intro, hein, je dis. Hey, Marc, cette semaine, tu avais à cœur de nous expliquer un peu, parce qu'on entend souvent, tu sais, parler. Puis pour les néophytes, mais là, ceux qui ne connaissent pas ça, on se dit « Ah, mais c'est la même chose », mais c'est pas la même chose quand on parle de bushcraft versus survivaliste. C'est pas pareil, ouais, tout à fait. Hein?
C'est ben, ça se rassemble un brin, sauf que des fois, les gens là, pratiquent le survivalisme, puis c'est carrément le bushcraft et vice-versa.
Oui, et puis c'est ça, c'est comme on disait un petit peu, c'est y a beaucoup de similitudes, là, mais c'est quand même deux activités là, différentes, mettons, la mentalité des gens, là, souvent, ne sont pas pareilles. Pour commencer, c'est sûr que ce soit le bushcraft ou le survivaliste, là, comme on dit à chaque émission, là, les 5C, là, vaut autant pour l'un que pour l'autre. Là. Ça va être plus souvent dans la mentalité. Là. Les survivalistes, ça va être des gens de les vrais cracks, là, qu'eux autres, là, le but, là, c'est d'aller passer du temps en forêt, là, avec pratiquement rien, là, un couteau sur la cuisse, puis that's it. Là. Ça, c'est un peu extrémiste. C'est tout des je pense que c'est des randonnées ou des quelque chose qu'on ne veut pas qu'il nous arrive. Là.
Ouais, je m'a dit comme toi. C'est un fait.
C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'un minimum, là, comme les 5C. Là, on va les répéter quand même. Là. Il y a le couteau, la corde, la couverture, combustible et contenant. Fait que ça, là, que ce soit bushcraft ou survivaliste, on ne devrait jamais rentrer en forêt ou partir en randonnée sans ce minimum-là, ça c'est sûr.
Oui, ne partez pas sans eux.
Oui, exactement. Puis si on parle un petit peu du survivaliste, comme on le disait, eux autres, le but, là, ça va être plus d'essayer de survivre là, avec le moins de gear possible. Puis tu as l'autre gang de survivalistes, qu'eux autres, là, ils sont vraiment préparés à survivre là, en cas de peu importe ce qui peut arriver, que ce soit une guerre, une pandémie comme qu'est-ce qu'on vient d'avoir, ou même qu'on est encore dedans, ou toute autre sorte là, de catastrophe là, qui pourrait arriver. Fait qu'eux autres, ils vont vraiment travailler, mettons, à avoir de matériel pour survivre, mettons, sans être obligé de dépendre d'autres personnes.
Oui, c'est ça. Ils veulent essayer d'être le plus autosuffisant possible.
Exactement, autonome là, au coton. Ouais. Puis souvent, là, c'est ces gens-là, mettons, qui vont être vraiment là, des survivalistes, là, c'est c'est des gens là, qui ont leur mentalité là, comment je pourrais dire, c'est pas le trip, c'est pas d'aller dans le bois puis de survivre, là, c'est plus là, d'être capable d'être, comme tu disais, autonome là, en cas d'un bris de normalité ou peu importe la catastrophe là, qui pourrait arriver du jour au lendemain. Là.
C'est ça. Donc, ces gens-là, naturellement, oui, il y en a qui vont... Oui, moi, dire comme toi, là, je peux voir la ligne entre les gens qui vont faire du bushcraft, qui vont s'aventurer dans le bois, puis ils pensent qu'ils font du survivalisme. Finalement, c'est pas tout à fait du survivalisme, c'est plus du bushcraft. Hein.
Oui, c'est ça, parce que là, tu as l'autre gang de ceux qui aiment vraiment la nature. Puis je dis pas que les survivalistes là, qui se préparent là, pour des éventualités là, qu'ils pourraient avoir dans le monde, là, c'est des gens qui n'aiment pas la nature, c'est vraiment pas ça que je veux dire, parce que ces gens-là vont se servir beaucoup de la nature aussi pour survivre. Fait que c'est des aimants de la nature, eux aussi. Sauf qu'ils font pas tout à fait dans la même mentalité que quelqu'un qui va faire du bushcraft. Le bushcraft, c'est vraiment là, des sorties en plein air. Puis ce qu'on veut surtout, c'est au lieu de traîner tout ce qu'on a besoin, mettons en équipement, on va plus traîner des outils pour être capable de fabriquer ce qu'on a besoin en forêt. Là.
Exactement.
Ça va être plus un moment comment je pourrais dire, plus un moment de détente qu'un moment de survie. C'est sûr qu'on va travailler à notre confort, mettons, au lieu de travailler à la survie. Il reste qu'un ne va pas sans l'autre. Là. On survit quand même, là. Mais c'est juste c'est la façon, c'est l'approche qui n'est pas vraiment identique.
Oui, c'est ça, comme tu dis, comme toi, tu l'as fait cet hiver. On a vu là, le camp, on a vu aussi là, les outils. Tu as fait une sciotte, toutes des choses comme ça. Ça, oui, c'est de la survie, mais c'est plus du bushcraft. Là. Vraiment, là, tu vas là, tu vas pas là. C'est sûr que si tu t'écartes dans le bois et tout ça, mais t'as tout, tu sais, tu parles des 5C, t'as tout ce qu'il va te falloir, mais c'est pas comme le survivaliste que lui, ça peut être en zone urbaine, admettons.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis eux autres, maintenant, le but du vrai survivaliste, c'est vraiment de survivre, là, d'être indépendant à quelque chose qui peut arriver, là, pas dépendre d'absolument rien. Là. C'est plus là, pour... Le mot le dit, c'est plus pour survivre, là, c'est pour ça. S'en sortir. Tandis que le bushcraft, c'est vraiment... Là, une autre façon de penser, souvent, là, je dis aux gens, j'aime ces styles old school, si on peut dire. Là.
Ouais, c'est
si vous allez voir des vidéos de bushcraft, vous allez voir les gens souvent sont habillés de façon ancienne, là, les vrais puristes du bushcraft. Là.
Ouais, en peau de. Avec la peau de daim, là, de chevreuil et puis tout ça, là, qui sont habillés un peu à la Davy Crockett. Là.
C'est ça. Puis souvent, les bushcraft aussi, c'est. On va être, comme je pourrais dire, on va être nomade. Là. T'sais, on peut s'installer à un endroit là, pendant un laps de temps, puis après ça, plier bagage, puis aller carrément s'installer ailleurs, là, puis refaire l'exercice. T'sais.
C'est ça, puis c'est pas pour survivre à une attaque de zombies, admettons. Là.
Non. Ben, t'sais, les deux se rejoignent à quelque part, je dirais plus que
ouais.
C'est... Peut-être plus la mentalité là, qui est pas tout à fait pareille entre le survivaliste à côté, puis... pratiquer le bushcraft, lui, ça va être plus comme plaisir, puis c'est vraiment un mode de vie, si on peut dire.
C'est ça, puis c'est plus, je te dirais, ça se rapproche un peu plus à notre façon, à nous, de faire les choses au Québec, qu'on voit surtout on voit beaucoup, beaucoup, énormément de survivalistes en France, aux États-Unis, on en voit beaucoup, là, tu sais, il y a beaucoup, comme le survivaliste, va tendre à faire un abri nucléaire, admettons.
Oui, absolument.
Mais dans le bushcraft, on ne fera pas d'abri nucléaire.
Non, c'est ça. Puis souvent, les survivalistes, les gens qui vont être vraiment armés pour défendre le bien, je comprends mm-hmm. tout à fait ça. Ça peut arriver, un abri de normalité, une guerre mondiale ou peu importe ce qui peut arriver. Là, ils vont être vraiment prêts là, à parer à toute éventualité, même se nourrir. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de réserves, mettons. Pour la nourriture, comme tu disais tantôt, ils vont avoir des abris là, vraiment là, qui vont être comment on pourrait dire, qui vont subvenir à leurs besoins puis qui vont être vraiment conçus pour n'importe quelle éventualité qui peut arriver.
Exactement.
Bushcraft, on s'en va en forêt, on se fait on va faire des campements là, comme je disais tantôt, on est nomades, fait qu'on va pas bâtir un camp, ça va être un petit campement qui va nous abriter pour rester là une couple de jours, une couple de semaines ou une saison. Après, ensuite de ça, on ramasse puis on change de place.
C'est ça. C'est de la survie, mais c'est pas du survivalisme. C'est
non,
ça
c'est
qui
ça,
est la différence. Il y a une grande différence. Je suis content que tu nous expliques ça. Parce que finalement, même moi, tu sais, à un moment donné, je me disais survivaliste, bushcraft. Mais là, c'est vraiment clair. C'est vrai qu'il y a une différence. Oui, les deux, comme tu le dis, peuvent se rejoindre, mais il y a quand même une différence. Mais écoute, Marc, le temps file rapidement. Et puis, si les gens ont besoin de conseils, les gens ont besoin d'informations, on se rappelle aussi que tu travailles chez Pro Nature à Rouyn-Noranda. Donc, oui, si les gens veulent aller faire un petit tour, aller vous voir, c'est sur la rue principale à Rouyn-Noranda, mais tu as aussi un Facebook, hein, puis si on veut te poser des questions et tout ça, ils peuvent te rejoindre. Hein.
Oui, absolument, comme je l'ai dit. Dis-le, juste à m'écrire un petit message dans Messenger pour me donner une petite indication pourquoi vous voulez être amis. J'aime discuter avec les gens, mais j'essaie quand même de filtrer là, les éventuels amis. Il y a des critiqueux, il y en a qui vont... le but de leurs interventions, c'est juste de brosser la soupe, comme on dit. Là, fait que c'est pas ces gens-là qu'on veut discuter avec. On veut vraiment les mordus de notre activité.
Tu as bien raison. Donc là-dessus, nous, on va rejoindre Marc la semaine prochaine. À ne pas manquer, c'est toujours intéressant avec Marc. On a du fun, on a du plaisir. On rejoint Marc. Et Marc, je sais que tu pêches un petit peu. Là, bonne pêche.
Merci. Bonne semaine, gang.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, allons faire un petit tour dans le nord. Allons voir, moi je me plais toujours à dire que Sylvain est notre ermite des temps modernes. Mais on va aller parler avec un gars qui est photographe animalier et puis qui fait de l'excellente photographie. Et puis, on va en parler aussi. Mais on va parler du Nord, de qu'est-ce qui se passe présentement, de ce deuxième éveil de, comme on dirait, de chaleur. Et oui, pour ce faire, je parle avec notre ami Sylvain Parkin. Salut, Sylvain.
Salut, Guy.
Hey, la température change, mais là, elle change. Elle est changeante. Dame nature est ménopausée pour moi.
Ah, ben écoute, comme tu as pu remarquer, depuis un an, c'est les montagnes russes, puis le printemps, c'est un peu sensiblement la même chose. Hier, 26 degrés, un dimanche hallucinant. Écoute, les oiseaux, ça chantait de partout. On a les faucons émerillons d'arriver, on a pic flamboyant, petit pic bois. Je crois avoir vu un harfang hier soir passer vers le nord. Les oiseaux de proie sont dans le secteur. Les ours, ça bouge. Je te dirais, c'est le lac en avant du camp a calé ce week-end. La pluie ce matin. Je te dirais, autant qu'on a eu du moins 7, là, 4-5 jours, que là, ben il fait plus chaud dans le nord qu'il faisait chaud dans le sud.
Oui, c'est assez spécial, hein? Comme tu le disais, là, tu sais, c'est des dents de scie. Puis je voulais pas offenser personne tantôt quand j'ai dit ménopausé, là. Soyez pas offusqués par ça, là. C'est juste une façon de dire que c'est dame nature et des soubresauts, si on veut, là, de température, des chaleurs, froideurs, de la pluie, pratiquement de la neige des fois. Je vous dis que ça y va par là, mais on parlait un peu en ronde aussi. Là, les lacs, croyez-le ou non, viennent à peine de caler là, par chez toi. Là.
Oui, les lacs étant les petits trucs, mais les gros lacs, oublie ça, réservoirs, la baie James est encore de la glace. C'est sûr qu'avec la journée d'hier, ça va aller avec la pluie, ça va aller vraiment les plus gros, les moyens lacs vont caler, mais il y a encore de la glace à certains endroits là.
Oui, hein. C'est ça. C'est quand même bien parce que si je me rappelle l'année passée, on en discutait, Sylvain, c'était un peu ça là. C'était comme, c'était un peu normal, là, je te dirais, c'est ainsi de l'année, là, ça commence. Mais l'année passée, me semble, ça a calé un petit peu plus tard que ça même, hein?
Ben oui, parce que j'avais des gens de la France, des photographes qui étaient ici, qui faisaient le tour du monde, puis dans ces dates aujourd'hui, il y a des matins, il faisait moins 14, puis je te dirais, début du mois de juin. Ben, ouais, dans les prochains jours. Autrement dit, je pense que c'est le 27 ou le 28, faudrait que je regarde. On avait eu 12-15 cm de neige.
Oui, oui, oui.
Fait que, ouais. Mais ça, c'est pas... Écoute, on peut avoir de la neige aussi. En 2004, on a annulé la Saint-Jean-Baptiste à Radisson parce qu'on avait eu 20 cm de neige. Fait que c'est pas nouveau. C'est comme normal. Sauf que je te dirais, si je regarde les premières années que je suis arrivé ici et aujourd'hui, c'est le royaume des extrêmes. Il va faire 26, il va faire 0 la nuit, il va faire 7, il va faire 10 la nuit, puis il va faire moins 2 la journée d'après. C'est le royaume des extrêmes. Puis on le voit au niveau du comportement des animaux, comportement des plantes. C'est vraiment, écoute, hier c'était sec, c'était 18% d'humidité. Fait que oui, on est heureux d'avoir de la pluie. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est depuis quelques années, c'est comme ça. Mais si je recule un petit peu plus loin en arrière, il y a eu encore un 3-4 ans où c'était carrément différent. Fait que c'est des cycles, reliés au réchauffement climatique. Au mouvement du courant jet qui nous ramène l'humidité du sud, parce que je te dirais, l'humidité du sud, l'hiver, on n'avait pas ça avant, on l'a depuis 7-8 ans. L'été, moi, ce qui me fait le plus peur cet été, c'est les canicules, la sécheresse. Si je regarde ce qui se passe dans le sud avec les feux de forêt un peu partout, c'est un peu ce qui nous attend peut-être. Mais la faune est au rendez-vous, la faune s'adapte, le beau temps s'en vient, les grands espaces, on est encore confinés, tout est fermé. On devrait savoir un petit peu plus cette semaine qu'est-ce qui va se passer, mais tout est à suivre.
Oui, justement, c'est ça, là, il y a beaucoup, on entend beaucoup parler, ça commence à bouger. Est-ce que finalement on peut monter au nord? Est-ce que la route est ouverte ou c'est encore fermé?
Tout est fermé, les deux accès au nord, c'est fermé. On devrait avoir des nouvelles cette semaine. Le goose break chez les cris a pris fin officiellement en fin de semaine. C'est sûr qu'il y a encore des gens. Pas eu beaucoup de doigts. Il y a encore des gens qui vont chasser encore peut-être pour une semaine ou deux. Mais tout est fermé. La semaine dernière, une réunion avec Tourist Bay Jane, justement sur l'après, sur l'ouverture. Tout le monde est dans le néant. Tout le monde attend voir ce qui va se passer avec notre fameuse santé publique. Comment est-ce qu'ils vont... Quelles vont être les directives pour la réouverture dans un premier temps et est-ce qu'on va avoir des touristes à quelque part cet été? On attend.
Oui, puis ça, bien naturellement, on sait que si, du moins les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est s'informer parce que quand ça va rouvrir, moi j'ai comme l'impression que tu vas être submergé de demandes. Et puis les dates vont disparaître vite. Si on en parlera, on donnera le numéro à la fin de la chronique, là. Mais j'aimerais ça revenir un peu sur les changements, comme on discutait, là. Pour environ 2 minutes, là, on pourrait parler des... Tu sais, toi, ça fait quand même 23 ans, là, hein, si je ne m'abuse, que tu es là-bas.
Moi, je commence. Tu commences ma 23e.
C'est ça, 23e année. Donc... Tu nous disais que les vents du sud, c'est le changement majeur, hein, je pense, au nord, cette humidité-là qui n'existait pas avant.
Ah non, l'hiver, c'était sec, vraiment, vraiment sec. Là, c'est humidité, à part la part du vent du sud qui nous amène du givre sur les arbres, je veux dire, moins 30, moins 40 avec 80% d'humidité, je veux dire, c'est pas nécessairement très, très agréable. Les animaux, le comportement des animaux aussi, ça a affecté les animaux, surtout le loup, les autres animaux aussi, là, mais on le voit, là. On le voit par les extrêmes, là. Je veux dire, tu sais, au mois de janvier cette année, c'était quand même doux à comparer du mois de janvier de l'année dernière. Au mois de janvier de l'année dernière, on avait du moins 45, moins 56, avec un vent du sud, ce qui est inhabituel. C'est des tempêtes de neige à moins 30, on n'a pas ça, en a à cause de la part de l'humidité du sud.
Oui, c'est vrai.
C'est la même chose l'été.
Oui, puis quand on était jeune, même, on voyait pas ça. Tu Tu sais, les tempêtes de neige, bon, OK, moins 10, moins 5, moins 20, moins 15, même moins 20 même, c'était bien rare, là. Et puis là, bien, c'est rendu à moins 30, on peut avoir des tempêtes de neige, c'est un peu différent. Mais écoute, Sylvain, si on veut plus d'informations, si on veut naturellement se tenir au courant, puis on a envie d'aller faire de la photo avec toi au nord, la façon dont ça va fonctionner, parce que la sous-ministre a mentionné qu'il y aurait une forme de délestage un peu et que oui, on va avoir un été touristique cette année. Donc, on le ferait de quelle façon, Sylvain?
Meilleure manière, www.animalparking.info, puis juste une petite recherche avec le hashtag animalparking, vous allez me trouver ma page Facebook, Instagram. Envoyez-moi un message. Moi, je suis en mode préparation, peu importe, avec toutes les nouvelles règles, relatives au COVID. Là, on est en train de se mettre en place, justement, pour avoir le plus de flexibilité possible. Puis, dépêchez-vous, parce que à date, j'ai un méchant paquet de monde qui demande juste à venir profiter de notre belle grande nature.
J'en doute pas, oui. Donc, nous, on va retrouver Sylvain la semaine prochaine. Donc, allez faire un tour. Allez voir aussi la page Facebook Sylvain Parking. Photographe animalier. Donc là-dessus, nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine, Sylvain.
Salut Guy, bonne semaine.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Vous avez un chalet, un VR ou une résidence en région? Abonnez-vous à un service Internet haute vitesse de ExploreNet. Notre nouveau réseau Internet LTE offre maintenant des forfaits de téléchargement illimités. Besoin d'un service télé? Nous offrons la télévision chat direct par satellite. Et vous pouvez aussi ajouter la téléphonie à petit prix. Créez votre trio Internet, télé et téléphonie dès maintenant. Contactez votre détaillant et installateur local au 1-866-916-2226. NJ-Albert.com.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564. Point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.